Trisac. L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Bon mercredi 22 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. À 12h15, on aura un nouveau rapport de la DPJ ou du DPJ pour savoir où nous en sommes en cette deuxième année de pandémie, mine de rien. 11h15 aussi, ça va très mal dans le système de santé. Puis c'est pas un éclat médiatique, là. C'est pas du sensationnalisme. Il y a un article vraiment intéressant dans la presse qui établit des exemples, un après l'autre, de pénuries dans les hôpitaux, de services qui sont fermés, de départements qui ont fermé cet été, des problèmes. On a parlé de l'urgence de Sainte-Terre en Abitibi qui a été fermée la semaine dernière. Là, on constate que c'est pire que ce qu'on avait prévu. Et pourtant, dans l'article, Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, dit « On a plus par capita, par 100 000 habitants, on a plus d'infirmières au Québec qu'il y en a, par exemple, en Ontario ou dans le reste du Canada. So, what is the problem? » On va voir ça à 11h15, c'est quoi le problème. Mais tout d'abord, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui la mairesse Plante qui dit que d'autoriser la construction de gratte-ciel qui dépasse le Mont-Royal en hauteur serait une hérésie, parce que c'était dans le livre programme de Denis Coderre. Denis Coderre a reculé sur la question, mais la réflexion reste entière. Est-ce qu'à Montréal, on préserve le Mont-Royal? On a avec nous le professeur et directeur de l'école d'urbanisme de l'Université McGill, Richard Schermur. Monsieur Schermur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. D'abord, là, vous, quand vous voyez Valérie Plante dire que c'est une hérésie de construire les gratte-ciels en hauteur qui dépassent le Mont-Royal, comment vous réagissez?
Ben, bon, je pense que c'est peut-être une exagération de dire que c'est une hérésie, parce que je pense qu'il y a des raisons légitimes de regarder ça, de voir si c'est peut-être utile de construire en hauteur, mais je pense qu'il y a aussi des bonnes raisons d'avoir des réserves. Mais de là à dire que c'est une hérésie, moi je pense qu'il faut faire attention de ne pas avoir des dogmes comme ça sur la ville, et il faut les justifier.
Ouais, parce que là, ça expulse toute réflexion et toute nuance. Ça veut dire, c'est hors de question. Puis en même temps, M. Schermur, à Montréal, on a toujours fait des efforts pour préserver le Mont-Royal. Puis je sais pas si vous êtes déjà rentré à Montréal à partir de l'autoroute Bonaventure, mais on fait face à un mur de tours à condos. Déjà, on ne voit plus le Mont-Royal.
Oui, alors c'est ça, et je pense que c'est pour ça que la question de la hauteur est importante, et il faut l'avoir en tête, mais on peut avoir des bâtiments plus bas ou qui respectent les normes, qui empêchent les gens de voir la montagne aussi. Donc je pense que c'est une réflexion peut-être beaucoup plus en profondeur sur qu'est-ce qu'on veut vraiment préserver, quelle ligne de vue on veut préserver, et ce n'est pas que le dépassement des fameux 235 mètres ou 200 mètres, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut préserver et comment, et d'ailleurs, est-ce qu'on veut densifier le centre-ville, et si on veut le densifier, comment est-ce qu'on va le faire? Ça, je pense que c'est un débat intéressant. C'est pas très utile, à mon avis, de parler de hérésie. C'est pas très utile non plus, à mon avis, de lancer, de dire que bon, on va construire en hauteur sans vraiment réfléchir plus en détail à pourquoi on le ferait. Parce que je pense qu'une des grandes questions que j'ai, c'est si on construit en hauteur, et c'est un grand si, les bâtiments seraient pour qui? Est-ce que c'est juste pour des Airbnb? Est-ce que c'est pour des investisseurs internationaux? Parce que c'est eux qui auront l'argent pour acheter ces bâtiments en hauteur. C'est pas les
Montréalistes
qui vont pouvoir...
Présentement, c'est ce qu'on voit, M. Schermur. Présentement, on voit des tours à condos qui ont été achetés, on l'a vu dans les nouvelles récemment, par des médecins, par des gens plus riches, ou des investisseurs étrangers qui louent ça, mais ça donne rien à la densité démographique d'une ville, ça donne rien à la vie d'un centre-ville.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'idée de densifier le centre-ville, c'est pour que les Montréalais puissent y vivre et puis l'animer et en profiter. Je pense que c'est une excellente chose. Il faut y réfléchir. Mais le danger de construire des tours, parce que plus on construit haut, plus c'est cher, évidemment. Et donc, moins c'est accessible aux Montréalais. Et donc, ce seraient ces investisseurs ou des touristes qui viendront. Et ça risque même de nuire au centre-ville. Parce que c'est des gens qui viennent pour des périodes, qui repartent, appartes, ou même parfois qui spéculent et qui laissent leur appartement vide. Et donc je pense que le vrai débat est là. Je pense que le débat de la hauteur, sur la hauteur, c'est un peu un faux débat, et même Denis Coderre a reculé là-dessus,
ouais.
Parce qu'en fait, ça fait depuis les années 20 qu'on limite la hauteur, depuis 92, donc ça fait maintenant 40 ans qu'on a les normes actuelles, qui, bon, jusqu'au livre de Denis Coderre, faisait à peu près consensus. C'est sûr que les propriétaires veulent construire plus haut parce que ça leur donne une grande plus-value, mais je pense que les règles de 92 n'ont pas vraiment créé de grands problèmes pour Montréal. Donc, sans dire que aller jusqu'à dire que c'est une hérésie de ne pas dépasser de construire en hauteur, je vois pas l'intérêt de soulever ce débat-là. Mais le débat de la densification, et même avec les règles actuelles, est-ce qu'on veut construire encore plus de tours pour les investisseurs, ou est-ce qu'on veut que la ville, le centre-ville de Montréal, devienne un quartier plus vivant?
Donc, ça veut dire qu'il faut imposer des normes si on permet la construction d'édifices en hauteur. Et M. Chermure, vous parlez, je pense, aussi de l'emplacement là, de ces immeubles-là. Un immeuble plus bas peut poser plus de problèmes que certains gratte-ciels mieux installés.
Absolument. Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce qu'on peut avoir un gratte-ciel discret, ça existe, et on peut avoir des bâtiments en barre, même de 5 ou 6 étages, qui bloquent complètement la vue. Et donc je pense que il faut vraiment réfléchir à où on place les bâtiments et comment ils sont situés par rapport au reste des bâtiments. Et il se peut, sans être hérétique, de dire que peut-être un bâtiment de 220 mètres ferait l'affaire à certains endroits. C'est là où il faut faire très attention. Et d'ailleurs, il y a même un système qui permet certaines dérogations pour certains bâtiments. Donc même aujourd'hui, il est possible, si on le justifie bien, de dépasser la hauteur permise, même si ça se passe rarement.
OK. Est-ce que, d'abord, on parle de Montréal, là, j'imagine bientôt on va parler de Québec là, qui se développe aussi. Monsieur Chermure, Montréal, là, on a l'impression, on l'a vu avec Griffintown, ça a été un développement complètement anarchique. C'est les entrepreneurs immobiliers qui prenaient toutes les décisions. On s'est rendu compte qu'on construisait des tours à condos sans école, sans parc, sans aménagement, sans urbanisme et surtout sans architecture, des immeubles qui sont en vitre et généralement assez laids. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion à propos de l'urbanisme à Montréal?
Ben, c'est vrai que l'exemple de Griffintown est un bel exemple à ne pas suivre, parce que on a permis la construction des condos avant d'avoir un plan, et on appelle ça un plan particulier d'urbanisme, et ça c'est le pilote. En fait, c'est un plan qui regarde un quartier et qui met des balises. Or, il n'y avait aucune balise en 2005-2006 lorsque le Griffintown a commencé à se développer, et c'est que sur le tard, en 2013-2014, mais alors que le développement était bien lancé, que le PPU rentrer en vigueur. À Griffintown, il n'y avait pas de pilote. Et je pense que pour le centre-ville de Montréal et le centre-ville élargi, je pense que il faut peut-être remettre sur table, parce qu'il y a un plan d'urbanisme, et d'ailleurs celui de 92 qui a été remis en jour en 2004 et en 2009 reste en vigueur. Mais si on veut densifier, il faut absolument réfléchir comment. Mmh. Et là, c'est peut-être important de retourner au plan existant et de voir si on peut le modifier, mais en tenant compte de tout ce qu'on vient de dire, de qui occupera les bâtiments, pour qui est-ce qu'on veut densifier, et oui, écouter les propriétaires et les promoteurs, mais écouter aussi les employeurs. Par exemple, c'est bien beau d'avoir un centre-ville habité par des personnes très huppées, mais ceux qui nous servent le café, ceux qui travaillent à Jean Coutu, où est-ce qu'eux, ils vivent?
Ouais.
Donc, avoir un centre-ville diversifié, je pense que c'est très utile pour la ville à long terme, et tout plan d'urbanisme va devoir réfléchir à ça aussi.
Et une approche communautaire, j'imagine, M. Chermure, là, d'avoir une vie de quartier. Si on fait juste tout en hauteur et on a des touristes et des mercenaires qui viennent habiter dans le centre-ville de Montréal, on rend pas la ville plus vivante.
Ben, écoutez, Vancouver est un bel exemple, enfin un mauvais exemple si on veut dire, parce que il y a beaucoup de tours qui ont été construits en face du parc Stanley. C'est des belles tours qui se sont vendues très vite, mais le quartier est mort parce que ce sont principalement des investisseurs qui sont parfois là, parfois pas là, mais qui ont placé leur argent. Et malgré toute la construction qu'il y a eu, la vie de quartier de Vancouver se passe dans les banlieues et le centre-ville. J'ai été surpris plusieurs fois lorsque je suis allé, n'est pas un centre-ville particulièrement vivant.
Ah, ouais.
Et je pense qu'on veut éviter ça à Montréal. Et d'ailleurs, je dirais qu'à Vancouver, on a aussi la limite des 200 mètres. Hein. Donc, c'est pour protéger les vues des montagnes. Donc, c'est pas que à Montréal qu'on limite les hauteurs. Mais même à 200 mètres, on peut beaucoup construire. Et à Vancouver, ça n'a pas vraiment fait revivre le centre-ville.
OK. Justement, j'allais là, M. Chermure, là. Quelle est la tendance présentement dans les grandes villes? Parce que si on veut un centre-ville, faut qu'on le sente. On le sait que les gratte-ciels, on n'ira pas construire ça en banlieue.
Non, on n'ira pas les construire en banlieue, mais je pense que, et d'ailleurs je pense que le débat entre Denis Coderre et Valérie Plante s'en va vers là, c'est de dire que, en fait, le centre-ville de Montréal, il y a moyen de le densifier sans construire en hauteur, parce qu'il y a beaucoup de dents creuses, il reste encore beaucoup de parking entre les immeubles, ou beaucoup de petits bâtiments entre les grands bâtiments. Donc, il y a moyen de... Il y a pas mal de terrains vagues, d'ailleurs, autour des... entre Washington et le centre-ville.
Ouais.
Donc, il y a quand même moyen de densifier sans nécessairement monter en hauteur. Et là, c'est vraiment le design urbain. C'est pas que la construction, c'est comment est-ce qu'on construit pour que ça soit bien intégré à la ville, pour préserver les vues, mais il n'y a pas que ça, pour avoir des quartiers vivants, parce que on a vu ce qui se passe quand le centre-ville est vide ces dernières années. Ça enlève le cœur. C'est comme si on enlevait le cœur de Montréal. Et je pense que après que la COVID soit passée, il y aura sans doute ou probablement moins de demandes pour les bureaux en centre-ville. Ça se gagne plus d'espace pour les habitations. Mais quel type d'habitation et quelle population est-ce qu'on va pouvoir attirer? Et ça, c'est une réflexion, à mon avis, qu'on devrait avoir maintenant.
Mais est-ce que c'est une... Excusez-moi, là, M. Chermure, mais est-ce que c'est une pensée phallique, là, d'avoir toujours des trucs là, bien érigés, bien en hauteur, là, tu sais, puis c'est une grosse ville parce qu'on a des gratte-ciels. C'est déshumaniser une ville, avoir autant de gratte-ciels. Et vous l'avez dit, avec le télétravail, on se pose la question, ce qu'on va faire avec les tours à bureaux, est-ce qu'on peut les transformer en édifices résidentiels? C'est-à-dire, on est en pleine transition, non?
On est en pleine transition, et ça c'est une autre raison pour vraiment rentrer, de réfléchir à fond sur l'urbanisme et pas se lancer dans des plans de construction en hauteur sans vraiment y réfléchir. Mais il y a effectivement, comme vous dites, un côté phallique qu'on voit très bien dans certaines villes comme Dubaï où on construit à tout craint en hauteur. Même à New York, ces jours-ci, il y a des bâtiments très 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 hauts qui ont été construits à New York et qui ont été beaucoup critiqués parce que là aussi, ça casse, si on veut, la silhouette de New York. Et pourtant, déjà, New York est très élevé. Et il y a cette course à la hauteur sans penser à ce qui se passe au sol. Et d'ailleurs, on voit ça un petit peu à Griffintown. On n'a pas pensé au sol. Lorsqu'on se promène à Griffintown, même les rues ne sont pas particulièrement bien finies. Oui, chaque immeuble, sans doute à l'intérieur, est très agréable, mais il y a peu de services. Les rues n'ont pas été refaites. On n'a pas vraiment réfléchi à ce qui se passe au niveau du sol, et c'est là que la vie de quartier se passe.
Et ça reste des boîtes dans des boîtes, là. C'est laid. Mais les tours à condos, je comprends pas que dans les années 20, les années 30, au 20e siècle, on réussissait à construire des immeubles avec une architecture d'une certaine valeur, c'était de beaux immeubles. Puis aujourd'hui, avec la technologie dont on dispose, on arrive juste à emboîter une boîte en vitre par-dessus une autre boîte en vitre. C'est vraiment très laid.
Bah, disons que c'est un des paradoxes, en fait, c'est que quand les architectes travaillent avec des limites, et dans les années 20 et 30, on avait moins de possibilités de construire des bâtiments dans toutes les formes qu'on a aujourd'hui, eh bien, on travaillait avec les limites qu'on avait et on devenait très créatif. Aujourd'hui, on peut faire presque n'importe quoi avec les matériaux. Et donc c'est beaucoup moins encadré par la nature même des matériaux et des possibilités de design, ce qui fait que ça donne libre cours à l'imagination. Et puis là, parfois, on voit effectivement des choses, des imaginations qui sont peut-être pas
très
esthétiques, je dirais.
Mais ça manque d'imagination. Vous trouvez pas? C'est toujours des tours en vitre. C'est comme si ça nous émerveillait. On est blasé. On les a vus. Il y en a 13 à la douzaine.
Oui, alors il y en a beaucoup, et je pense que c'est aussi un tiraillement au niveau des promoteurs et des architectes entre les occupants qui veulent avoir des vues imprenables, chaque occupant veut une vue imprenable et donc plein de vitres et de balcons, et l'esthétique de la ville qui demanderait peut-être un peu plus de retenue sur comment on traite l'extérieur des bâtiments. Mais ça, je dirais que c'est un des problèmes qu'on voit à Griffintown, c'est que comme il n'y avait pas vraiment d'agencement du développement du quartier ou jusqu'à très récemment, eh bien, on est parti dans tous les sens et un PPU comme un plan particulier d'urbanisme peut baliser un peu les normes extérieures des bâtiments aussi. Donc, il y a des outils qui existent pour essayer de baliser tout ça, mais encore faut-il qu'on s'en serve. Et dès qu'on commence à s'en servir, ça crée de la controverse parce que les promoteurs veulent une chose, les propriétaires veulent quelque chose d'autre, les résidents veulent encore autre chose. Et donc, malheureusement, ces outils qui paraissent des outils techniques, ça devient très politique très rapidement. D'ailleurs, comme on voit, il suffit que de Nicodème mette quelques phrases dans un livre pour qu'il y ait tout un débat sur le centre-ville.
Ouais. OK, deux choses rapidement là avant qu'on se quitte. Si vous aviez à faire des recommandations, M. Chermure, aux deux candidats principaux à la mairie de Montréal, ce serait quoi?
Ben écoutez, je dirais que je suis content qu'il y ait un débat sur le centre-ville et sur la possible densification. Ça, c'est un débat qui peut être très constructif. Mais je pense que parler d'IRECI d'une part ou d'essayer de faire passer en couleuvre des politiques de hauteur d'autre part, c'est pas très constructif. Donc d'avoir un débat, je pense que c'est très bon, mais d'articuler des positions qui tiennent compte de certaines des complexités qu'on vient d'évoquer et de pas en faire un débat stérile, parce que ça peut être un débat qui est très important pour Montréal.
Est-ce que vous assistez à une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée d'urbanisme chez vos étudiants à l'Université McGill?
Ah oui, alors là, oui, ben, les étudiants qui rentrent en urbanisme aujourd'hui depuis quelques années sont vraiment motivés par des questions, je dirais, d'environnemental et d'avenir à long terme de la ville, d'une part, et aussi de mixité. Ils veulent pas des villes qui soient cloisonnées avec des tours et des investisseurs d'un côté et puis des habitants relégués dans des quartiers plus lointains. Et donc, il y a un désir fort d'avoir des villes plus intégrées et qui sont plus respectueuses de l'environnement. Mmh. Ça veut dire que c'est ces deux tendances sur les 10 dernières années qui sont très, très fortes.
C'est intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, M. Chermure, professeur directeur de l'École d'urbanisme de l'Université McGill. Merci à vous. Bonne journée.
Merci beaucoup. Au revoir.